La vie des idées avec Mathieu Bock-Côté.
Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à cette quatrième saison de La vie des idées. C'est un immense plaisir de vous y retrouver. Encore une fois, lors des prochains mois, nous chercherons à comprendre notre époque et les grandes controverses qui la traversent. Et pour cela, nous recevrons des intellectuels des deux côtés de l'Atlantique qui peuvent nous éclairer en révélant les courants profonds, dis-je, qui façonnent notre société. Aujourd'hui, je reçois Christian Saint-Germain, qui à sa manière est presque un habitué de la vie des idées, professeur de philosophie à l'UQAM, qui vient de faire paraître un troisième ouvrage de sa série consacrée à la condition québécoise. Le titre est très clair, « Naître colonisé en Amérique ». Et je le précise, le titre est parlant, car Christian Saint-Germain nous y invite à renouer avec ce qu'on appelait autrefois la théorie du colonisé ou la psychologie du colonisé ou la critique simplement de l'esprit du colonisé. C'est un ouvrage puissant, violent, drôle, peut-être injuste aussi, qui, comme le veut la formule, ne laissera personne indifférent. Christian Saint-Germain, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors, question première à propos de cet ouvrage qui vient de paraître chez Liber et que j'invite immédiatement chacun à se procurer par ailleurs. Vous commencez par une, je ne sais pas si c'est une satire ou un portrait au lance-flamme ou quelque chose entre les deux, de la société québécoise à travers sa culture populaire dans les presque 50 premières pages où vous en prenez à la fois à la vie culturelle officielle du Québec, aux figures qui l'occupent, aux personnages qui en sont les principaux protagonistes. Pourquoi commencer ainsi cet ouvrage, qui par ailleurs est un ouvrage de philosophie politique, qui est un ouvrage qui cherche à nommer la condition du colonisé, pourquoi commencer par cette espèce de portrait au lance-flamme de la culture populaire?
Au lance-flamme, je ne suis peut-être pas d'accord avec le choix des armes. Moi, j'estime faire une frappe chirurgicale, mais enfin, il ne manque pas de cible au Québec. En fait, l'idée de la description, l'idée de l'entrée en matière rieuse, ricaneuse, satirique, exagérée, bien évidemment, où on force le trait, ou ce qu'on appelle le croquis carnivore, là, en fait, ça vise essentiellement à montrer que dans une société colonisée, comme la société québécoise, des auteurs tiennent le haut du pavé. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas innocent, c'est tout à fait symptomatique que quelqu'un comme Denis Lévesque ou que Anne-Marie Duchaux ou des personnages où tout le monde en parle, Guillaume Lepage, que ces gens-là occupent un espace si grand. En fait, ils fixent la conscience, ils fabriquent le consensus québécois. Et puis, en plus, ce qui est pas à dédaigner, ces gens-là, on nous les passe en reprise continuellement. C'est-à-dire à la fois la fin de semaine, le soir à 11h. C'est-à-dire qu'on tient la conscience québécoise télévisuelle épinglée comme un papillon de nuit là sur un tapis. C'est-à-dire on s'assure qu'on va voir la version du diffuseur colonial Radio-Canada à travers Anne-Marie Duchaux. On s'assure qu'on va plaire à la grande majorité. On va établir le gros bon sens, là, le soi-disant gros bon sens avec Denis Lévesque. Et on s'assure aussi de distribuer le dépliant de LSC avec Guillaume Lepage, où on retrouve invariablement la même platitude, c'est-à-dire deux jolies filles, un humoriste qui, après une trop longue absence, revient, quelqu'un qui est condamné par la médecine et quelqu'un de passage, parce que bien sûr, il faut donner la place à tous ces gens qui nous visitent et donc leur donner tout l'espace. Et donc, c'est pas un appendice, là, c'est pas quelque chose, quoique les émissions ressemblent aux émissions des appendices, mais ça, c'est une autre affaire. Mais c'est pas innocent, cette affaire-là. C'est pas une fioriture, c'est pas une enluminure, c'est essentiellement donc la manière dont le consensus québécois se fabrique.
Alors, vous frappez fort, vous avez nommé plusieurs des personnes que vous ne manquez pas, disons-le ainsi. Et à la page 24, vous avez une formule qui me semble très parlante. C'est-à-dire, vous critiquez cette culture populaire, vous critiquez la manière dont se représente la société québécoise.
Non, je critique pas la culture populaire. Je dis, voici l'état de la situation quand on est dans une société de colonisés. On réinvente pas la TV, disons, on fait des shows de chaises, c'est-à-dire ce qu'on appelle des shows de chaises, c'est une vilaine expression, mais il faut l'assumer, de haut de gamme avec tout le monde en parle, et de moins haut de gamme avec Denis, celui que j'appelle Denis Lamalice, ou le pseudo-Denis, ou enfin, j'ai toutes sortes de petits attributs pour lui, que je trouve fort, c'est un homme sans doute fort charmant, qui va être enterré sous les Gémeaux, enfin, on imagine déjà la scène, là, puis tout ce monde monde-là se congratule, puis là, tout ce monde-là reçoit des médailles, on les aime, puis on dit qu'on les aime, puis ça tourne en rond, là. C'est la société québécoise dans son goudron télévisuel, tel qu'on l'aime, c'est-à-dire avec le vieillissement de la population, qui en est évidemment un des éléments directeurs.
Alors, je vous ramène néanmoins à la page 24, parce que vous avez une formule forte, donc dans ce portrait sévère, disons-le ici, vous terminez en disant, vous terminez en un sens en disant « Heureusement qu'on était sorti de la grande noirceur ». Alors, cette formule-là…
Non, je pense que c'est « Heureusement qu'on est sorti », non?
Non.
On était sorti, ok, très bien.
Alors, « Heureusement qu'on était sorti de la grande noirceur », alors ce qui me frappe dans cette formule, c'est que vous nous faites finalement le portrait d'une société québécoise qui a tendance à s'auto-congratuler, qui se croit émancipée, qui se croit délivrée, qui se croit décolonisée, qui croit qu'elle a peu de choses à voir avec ce qu'elle était il y a 50, 60 ans. Et le portrait que vous faites effectivement de la vie, télévisuelle et la vie radiophonique et le portrait que vous en faites est cruel. Et finalement, vous nous dites par cette formule, presque avec le clin d'œil, est-ce que nous ne serions pas finalement à nouveau dans une grande noirceur qui ne dit pas son nom? Est-ce qu'on vous comprend bien?
Absolument, vous me comprenez parfaitement, ça en est même inquiétant. Mais non, la situation est la suivante, c'est-à-dire que la Révolution tranquille, qui est une des bêtes noires que je pourchasse, c'est-à-dire la fausseté de la Révolution tranquille, celle qui fait que nous sommes encore colonisés, celle qui rend impossible l'indépendance du Québec pour le moment. C'est ça notre drame.
Celle qui laisse croire que la libération a déjà eu lieu.
Exactement. Celle qui, en fait, permet de chasser le mot colonisé de la conscience québécoise. On l'a vu au congrès des jeunes péquistes là récemment. On voit qu'ils sont pas colonisés. Ils sont à la mode. Ils sont végétariens. Ils voyagent. Enfin, ils sont dans la diversité. Ils sont joyeux. Enfin, mais le mot colonisé n'entre jamais dans la conscience parce qu'il est tenu à l'écart. C'est un refoulement typique décolonisé, c'est-à-dire que la chose ne sera pas entendue. Comme on dit en droit, la question ne sera pas entendue. Le fait d'être colonisé, alors que les autres peuples normaux se sont libérés dans les années 60, nous sommes un peuple blanc en Amérique, sur le point de disparaître, et nous n'entendons pas la question coloniale, nous n'entendons pas. Plus, nous l'avons attendu à peine pendant les années 60, mais très peu, parce que nous, on n'est pas colonisés. C'est ça notre drame, c'est-à-dire que l'élision du mot colonial, de ce statut-là, est une activité constante dans la vie politique des Québécois. Le Parti québécois n'en parlera pas, dans le fond, et on en discutera plus loin quand on abordera le contenu plus sérieux du livre. On verra en quoi, par exemple, quelqu'un comme Lisée est essentiel pour monter le bûcher funéraire de la question nationale, si j'ose dire.
Je me permets néanmoins de dire
un bûcher des vanités.
Je me permets de dire que la première partie néanmoins est plus sérieuse que vous ne le dites, c'est-à-dire il s'agit d'un portrait, donc je le disais, très sévère d'une société québécoise qui se laisse croire qu'elle est émancipée, qui joue à l'émancipation, alors que si on vous comprend bien, elle ne l'est pas du tout. Et ça nous conduit ensuite à la question politique, effectivement. Vous nous dites, et c'est la thèse de l'ouvrage, vous me corrigerez si je me trompe, que toute la société québécoise fonctionne aujourd'hui au refoulement de sa condition véritable. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de détachement de plus en plus grand entre ce que nous sommes et ce que nous prétendons être. Donc la condition coloniale nous ravage, nous dévore jusqu'au trognon. Mais au même moment, jamais nous n'avons prétendu être aussi libres comme société.
C'est ça. Au même moment, on nous répète sans cesse, l'économie a jamais été aussi bonne. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas. Les jeunes voyagent, ils sont bilingues, ils sont trilingues, tout ça, ils sont cosmopolites, ils sont ouverts. On ne sait pas où ils sont vraiment, mais on va finir par savoir où ils sont rendus. La fameuse expression, on ne sait pas où ils sont rendus. Alors, non, on est là-dedans, on est dans ce discours-là, et ça prend beaucoup d'énergie, une société. En fait, ça prend un symptôme comme le Parti québécois pour maintenir, en quelque sorte, le cataplasme colonial. C'est-à-dire, quand le PQ ne sera pas là, parce qu'évidemment, moi, mon livre, c'est essentiel aussi un manifeste. Là. Il y a quelque chose de l'ordre de j'aime écrire, j'aime la beauté, j'essaie de monter un texte qui soit le plus beau au plan littéraire, le plus soigné, le mieux écrit que je peux. Mais en fait, comme c'est un texte qui est écrit d'une année à l'autre, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'après 2018, c'est-à-dire l'après-défaite du Parti québécois. Comment la question nationale va se positionner là. Comment le fœtus de la condition nationale va se tourner dans le giron de l'histoire. C'est ça qui m'intéresse. Parce que je n'ai pas désespéré aucunement, même si mon texte est cynique, ironique, je n'ai jamais désespéré du fait que le peuple québécois va être un peuple normal, puis qu'il va être libre, puis qu'il va parler français en Amérique, puis qu'il va réaliser, en quelque sorte, le grand projet des ancêtres et des fondateurs. Moi, pour moi, la folie mystique qui est à la base, qui est le noyau vrai du Québec, qui est le noyau véritable du Québec, va finir par apparaître. C'est ça ma conviction.
Alors, il y a une tension, effectivement, dans votre ouvrage. D'un côté, où effectivement, on pourrait croire qu'il y a quelque chose d'absolument désespéré. C'est-à-dire, tout ce que nous avons tenté sur le plan de l'émancipation collective a soit échoué, soit c'est une comédie, c'est un bluff, pour reprendre la formule de d'un de vos livres précédents, votre premier sur la condition québécoise. Donc, c'était un bluff. Donc, et le portrait que vous faites du Parti québécois, par exemple, de ses chefs, pas seulement du chef actuel, c'est le portrait finalement d'une comédie qui n'est pas très drôle par ailleurs et qui se termine de manière assez gênante. Et de l'autre côté, donc, il y a ce côté très désespéré où finalement rien n'a fonctionné. Et de l'autre côté, vous avez la certitude intime qui perce ici et là que j'ai au cœur de la condition collective quelque chose comme une puissance, vous dites, mystique, un noyau mystique. Donc, il y a une espèce de promesse qui un jour sera tenue. Comment réussissez-vous à tenir votre réflexion dans cette espèce de grand écart? On pourrait croire que ces deux positions ont quelque chose de contradictoire.
C'est l'enjeu de la foi, c'est ce que nous rappelle saint Paul. Il faut espérer au-delà de toute espérance. Là.
De ce point de vue, c'est ce qu'on peut souhaiter à la fin de vos livres.
De ce point de vue, c'est réussi, c'est ce que vous alliez dire. Mais en fait, l'objectif est le suivant. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas au Parti québécois. Je trouve que le Parti québécois est quelque chose. C'est un mort qu'il faut que l'on tue. Et donc, le plus tôt qu'on aura liquidé le Parti québécois, le mieux on s'emportera. Mais évidemment, quand je dis ça comme un obscur professeur d'université qui enseigne dans un sous-sol universitaire là, au niveau métro. Moi, c'est ma conviction intime. Pas parce que ces gens-là sont personnellement... J'ai quelque chose contre eux personnellement. Je trouve que ça fait 40 ans qu'on donne la chance aux coureurs, comme on aimait à le dire. C'est une expression très, très commune au Québec. Donner la chance aux coureurs, ça fait 40 ans qu'ils courent. Moi, je pense que ces gens-là sont la condition de la non-réalisation de l'indépendance. Parce que avec des lois 101, des lois à caractère chimérique, avec qui donnent une fausse sécurité, avec tout ça, on n'arrive pas à percevoir l'enjeu. L'enjeu, le temps passe, c'est vrai. Il y a des enjeux démographiques, il y a des enjeux de nombre, mais il y a surtout le discours du nationalisme québécois qui est devenu totalement homéopathique, là, c'est-à-dire où il est totalement dissous dans une sorte de trudeauisme qui s'avoue pas lui-même, une sorte de généralité éthique, d'insignifiance écologique, qui essaie. Alors que la vraie question, c'est pas 450 propositions dans un congrès, c'est comment on renouvelle le discours national en vue de l'indépendance puis de la liberté d'un peuple. C'est pas de se demander, on va-tu mettre une taxe sur les pneus d'hiver ou on va-tu faire des péages sur des ponts qu'on n'a même pas construits. Ça, c'est on voit tout de suite qu'on a affaire à des farceurs. On voit tout de suite qu'on est dans un grand épisode de Symphorien quand on voit ça. On n'est pas du tout dans la perspective d'une galvanisation des forces du Québec, là. On est dans la dilution homéopathique puis de la rectitude, ce que j'appelle l'urinoir de la rectitude politique, là, essentiellement.
Alors, votre critique, bon, on y arrive. Votre critique est une critique du Parti québécois qui est à la fois responsable d'un échec collectif, mais aussi celui qui nous empêche de percevoir l'échec.
Qui nous empêche de percevoir notre condition coloniale. Oui, parce qu'il est bâti sur ce refoulement-là, lui. En fait, c'est notre symptôme, le Parti québécois. C'est-à-dire avec des chefs qui démissionnent en pleurnichant, avec un parti qui, dans le fond, a développé le genre démissionnaire. C'est-à-dire, j'ai des enfants, je m'en rappelle, oui, j'avais des enfants. Même PKP, dans le journal de ce matin, dit qu'il va peut-être revenir en politique. Non, on est vraiment dans le vaudeville, mais, là. On a basculé au théâtre des variétés, là.
Mais lorsque je vous lis, et ça fait quelques livres que je vous lis déjà, j'essaie de comprendre à qui. Parce que pour vous, tout était foutu depuis le début. Disons ça comme ça.
Non, tout est pas...
Mais comment explique? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Quel est, si on cherche à retrouver, le moment où ça a dérapé? Disons ça comme ça. Le moment où Christian Saint-Germain nous dit, à ce moment-là, si on avait pris une autre décision, aujourd'hui, on serait un pays. Et donc, à quel moment ça a dérapé tout ça? Est-ce que c'est dès le Parti québécois? Est-ce que c'est même à l'époque du RIN, de l'Alliance Laurentienne?
Ben, c'est certain.
À quel moment, autrement dit, le nationalisme québécois trébuche ou à tout le moins prend de mauvaise direction?
Mais c'est certain que le sabordement du RIN par Pierre Bourgault n'est pas la décision la plus lumineuse que Bourgault a prise dans sa carrière. Je pense que il y a quelque chose de si on veut situer, si on veut s'amuser à faire les gérants d'estrade de l'histoire, on peut essayer, au moins identifier cet élément-là. Ensuite est venu un parti qui est bâti sur le mirage démographique des années 60, sur le montage bureaucratique de la société québécoise, et ce parti-là, en fait, a cherché la respectabilité. C'est ce que d'ailleurs Bourgault a dit deux choses par rapport au PQ après son erreur du sabordement du RIN. Il a dit, on a toujours cherché la respectabilité, ce qui est une grave, la sécurité et la respectabilité. On retrouve d'ailleurs ce discours-là sur YouTube, c'est très facile à trouver. Et il a immédiatement, dans les années 80, vu dans l'évêque une espèce de faucheton, une espèce de simulacre, là, monsieur l'évêque, que l'on tient en haute estime, comme si c'était, je sais pas, moi, un saint ou un mystique ou le frère André, là. Monsieur l'évêque, dans le fond, c'est juste l'extension du Parti libéral dans une perspective moins corrompue. C'est la continuation d'un nationalisme du Parti libéral dans, avec moins de corporations, avec, qui fait le plein de, qui est dans une perspective moralisatrice, d'assainissement de la politique. Fort charmant au demeurant, mais,
votre description est assez injuste sur le plan factuel, si je peux me permettre. Par exemple, quand vous parlez de René Lévesque, vous oubliez, par exemple, l'influence du chanoine Gros sur lui. Le fait qu'il a assumé par ailleurs la continuité historique, lui-même, quand on lit les premières pages d'Option Québec, il assume ce que vous espérez que les souverainistes québécois assument, la part mystique du projet national.
Non, je vous réponds là-dessus, Mathieu, la chose suivante. C'est-à-dire que c'est exactement Pierre Bourgault qui dit de l'évêque qu'il est donc niaiseux, parce que quand le général de Gaulle est venu puis a crié « Vive le Québec libre », l'évêque a dit « Il n'y avait pas d'affaire à faire ça, on était capable de le faire tout seul », etc. Il a même pas compris la portée de la déclaration de Gaulle, essentiellement. Il a juste vu des problèmes politiques parce que l'évêque, comme le reste du PQ, sont dans la doctrine provincialiste du fédéralisme canadien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'inventer le peuple québécois, de l'imaginer autrement qu'à l'intérieur du carcan constitutionnel. Ils veulent juste gagner un juge de plus, un petit pouvoir, grappiller un petit pouvoir, un peu comme des ils ont toujours été dans la doctrine provinciale. Ils n'ont jamais eu l'envergure de dire nous sommes une nation française, nous voulons avoir la totalité des pouvoirs, pas des grenailles. Puis, en fait, on le voit, par exemple, ce qui me surprenait récemment, c'est de voir le 15 août, la fête des Acadiens. Ben, Lisée, il se rend pas à la fête des Acadiens, parce que pour lui, la question nationale, ça se ramène à la peau de chagrin qui est la province de Québec. Et donc, plutôt que d'aller vers les Louisianais, aller vers les Acadiens, puis leur dire, voyez, moi, je suis un chef, j'aspire à devenir un vrai chef d'État, et je me rends vers ma diaspora francophone, et je rappelle à ceux qui sont au Québec à quel point ils sont fragiles, parce que quand tu te rends, si tu décides de te rendre en Acadie, c'est pas pour convaincre les Acadiens, tu peux leur dire, on va mettre des programmes spéciaux pour vous permettre de revenir, on va vous permettre d'étudier au Québec, on peut faire des choses tout à fait sympathiques de cette nature-là. Mais en fait, tu veux parler à ton peuple en te rendant là-bas. Mais c'est ce qu'un chef nationaliste péquiste fait jamais, parce que dans le fond, il veut juste, dans le fond, il est dans une négociation de type CSN avec le gouvernement fédéral depuis le début. Il veut juste aller chercher une petite affaire.
Mais, mais alors, comment expliquez-vous, quand vous présentez les choses ainsi, comment expliquez-vous, par exemple, le fait qu'en 95, cette fois-là, au référendum de 95, c'est un référendum qui est décisionnel sur l'indépendance, porté par Jacques Parizeau, que vous n'épargnez pas non plus dans vos ouvrages en général. Il y a une volonté très claire chez lui de. Il y a des préparations internationales, des préparations financières. Pour vous, Parizeau est aussi dans la logique provincialiste qui consiste à quémander quelques pouvoirs de plus.
Oui, parce que rappelez-vous, Parizeau, dans les années 70, ses histoires avec Carole Deveau, rappelez-vous, Parizeau qui dit, après l'échec de Meech, il se tourne vers Robert Bourassa, son soi-disant fameux discours, Bourassa, dire quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Là, tout le monde est appâmé autour de ça. Il s'imaginait là, que le Bourassa allait devenir un homme. Et donc, il dit, mon premier ministre. Or, il oublie que Bourassa est en fait celui avec les fédéraux qui ont organisé la répression des années 60, des événements d'octobre de 70. Mais son jugement est tellement, j'allais dire, est tellement incertain sur cette question position-là qu'il l'appelle mon premier ministre. Vous c'est quand même quelqu'un qui a fait qui dans l'histoire d'Amérique du Nord, à travers appuyer une loi sur les mesures de guerre, là, il peut pas être mon premier ministre.
Vous
là.
Pouvez critiquer, par exemple, le manque de jugement de Parizeau. C'est une idée, c'est une manière de voir les choses. Mais l'autre, est-ce qu'au nom de ça, vous pouvez dire que Parizeau était dans une logique provincialiste, alors que,
absolument,
à ce qu'on en comprend, l'ensemble de son action politique s'est inscrit dans une autre conception du nationalisme québécois?
Plus ou moins, parce que ce qui existait Parizeau, il l'a dit lui-même en entrevue souvent, c'est ce qu'il appelait les dossiers de gouvernement. Parizeau est un grand serviteur de l'État, au sens où on le dit, là, un grand commis de l'État. Ça marche dans une perspective pour faire des caisses de dépôt, ce qui est fort, fort charmant. Au demeurant. Mais ça marche pour ça, mais ça marche pas pour inventer, pour faire surgir un peuple. Et puis d'ailleurs, Parizeau s'en est jamais caché. Il a dû jamais voulu faire de la politique. T'as un sacré problème quand t'as un chef nationaliste qui dit... Bouchard disait exactement la même chose. Les deux gars se vantaient qu'ils avaient jamais voulu faire de la politique. Or, ils étaient titulaires d'une créance de liberté qui est en souffrance depuis 200 ans. Et donc, ces gens-là se vantaient de pas vouloir faire de la politique. Bouchard préférait faire plaider pour des économies de bout de chandelle avec le secteur public, puis Parizeau, lui, ce qu'il aimait, c'est les dossiers de gouvernement. Voilà des problèmes, j'allais dire, vous me permettrez l'anglicisme, qui j'en répéterai pas beaucoup, de casting, c'est-à-dire quand on est colonisé, quand on est frappé par la surdétermination coloniale, on agit exactement comme ça.
Mais vous me permettrez une dernière question sur ces chefs-là, parce qu'ensuite, on va arriver au cœur de l'ouvrage, c'est-à-dire la condition colonisée. Vous dites, par exemple, vous ne voulez pas faire de politique. On peut entendre la phrase tout autrement. C'est-à-dire, si notre peuple n'était pas justement dans une quête d'affranchissement national, d'émancipation nationale, on aurait préféré faire autre chose de notre vie. Mais la question est tellement importante qu'on décide de s'engager en politique.
Mais
c'est généralement comme ça que c'était compris.
Pas du tout. Dans le fond, c'est des gens... En fait, s'ils avaient été une autre époque, ce que je dis dans le livre, vous vous en souviendrez sans doute, ils seraient allés se faire cirer à Londres. Là, comme on disait, les vieux Québécois disaient qu'ils étaient allés se faire cirer à Londres. C'est-à-dire, Parizeau, en fait, était comme frappé du syndrome de Stockholm. Là, il parlait mieux anglais que les Anglais eux-mêmes. Il était tout à fait fasciné par cela. Il était tout à fait admiratif. Je pense même qu'il a dit qu'il garderait la reine d'Angleterre, peut-être sans doute en boutade, là, dans un moment d'égarement hilar. Mais on a affaire à deux chefs colonisés qui, eux, n'ont jamais compris ce que c'était le travail sur soi pour se décoloniser. C'est le propre d'être colonisé que de ne pas le voir jamais. Hein? C'est comme une sorte de maladie, et sûrement pas déclaration obligatoire, c'est une maladie invisible, là. C'est-à-dire on est colonisé parce que finalement on passe pas par Fanon, on passe pas par Mimi, on réfléchit pas sur cela parce qu'on est ailleurs, parce qu'on est dans le fond dans la carrière provinciale, on est dans la politique provinciale, on est content d'avoir été élu par le PQ, mais c'est pas suffisant d'être élu on le voit bien depuis 40 ans, c'est pas suffisant d'être élu par le PQ même à 93% comme un chef coréen ou comme Pauline Marois là. Pour réussir une entreprise comme l'indépendance du Québec.
Alors, je me permettrai simplement de dire qu'en ces matières, vous reprenez les tics de certains de nos commentateurs. Lizzie aurait fait 75%, on aurait dit qu'il y a un mauvais score. Il y a 93%, on l'accuse d'être nord-coréen. D'une certaine manière, il n'y avait pas moyen de s'en tirer.
Ah oui, mais pas par moi, vous le savez. Vous m'avez...
À 87%, ça aurait été correct.
Vous m'avez lu, vous savez que Lizzie, j'admire la qualité de son français, son intelligence, mais il n'en demeure pas moins qu'il appartient à l'époque de Nana Mouskouri ou de Mireille Mathieu, c'est Acropolis à Dieu, là, c'est il est sorti directement du tricheur et du naufrageur de Robert Bourassa, on dirait une vieille affiche de Robert Bourassa dans Mercier, là, il est blanchi comme un cheval fourbu.
Mais hein? je vous ramène sur la question que je vous ai posée, que vous avez un peu esquivé quand même. À quel moment peut-on dans l'histoire
vous cherchez le Big Bang?
Non, pas du tout, parce que il y a dans l'histoire du Québec des 60 dernières années, en fait, il y a une montée du souverainisme, il y a une montée de l'indépendantisme. Il y a eu un moment même de où il y a eu une capacité d'entendre le discours sur la décolonisation. Hubert Aquin était là-dedans, Pierre Vallière, bien d'autres.
François Schirm.
Alors, la question que je vous pose avec insistance, c'est à quel moment, vous me dites qu'il n'y a pas un Big Bang, mais à quel moment peut-on repérer à peu près le dévoiement provincialiste, selon vous, du nationalisme québécois?
Le dévoiement provincialiste...
Vous me direz qu'il a toujours été ainsi et qu'il n'y a jamais eu de moment indépendantiste finalement.
Non, non, je ne vais pas jusque-là. Dans le fond, la lecture du Béraquin dans un ouvrage, dans un passage des Blocs hératiques qui s'appelle « L'art de la défaite », il montre que même les patriotes ont eu de la difficulté, même quand ils gagnaient. Tout surpris de gagner à Saint-Denis. Donc, c'est ça, être colonisé. Là. Il y a un trait problématique. Que même quand on gagne, on s'arrange pour perdre. Même quand Camille Lorrain veut faire la loi 1, il fait la loi 101, il s'enfarge dans les fleurs du tapis, puis il est même pas capable au plan parlementaire de faire la loi 1. Et donc, on voit tout de suite qu'on est dans le lapsus. C'est ça, la surdétermination coloniale. C'est pour ça qu'être colonisé, c'est comme être envoûté. Dans le fond, c'est avoir intégré le désir de mort que notre colonisateur a mis en nous. Et c'est de l'exécuter sans le savoir. C'est pour ça que le chef doit travailler. Un peu, l'image que je prends dans le livre, c'est de dire un peu comme les Indiens qui se mettent dans une tente pour suer, pour essayer de voir clair, pour jeûner, pour essayer de... C'est un désenvoûtement, le fait de se décoloniser. C'est pas juste une question rationnelle ou politique. Il suffit pas d'avoir juste des bonnes intentions, vous dire votre chèque va arriver plus vite avec nous autres, vous allez être soigné plus vite, ou il va vous arriver, il va neiger moins l'année prochaine. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que le chef lui-même ait compris, en fait, et une des thèses du livre, je sens que vous allez m'en parler, mais une des thèses du livre, c'est que le colonisé, le chef colonisé, c'est le colonisé suprême. C'est-à-dire, c'est le perdant en chef. C'est celui dans lequel des gens qui sont colonisés depuis de père en fils se reconnaissent parce qu'ils savent qu'avec lui, ça marchera pas. Et c'est pour moi la grande distinction entre Bouchard, Parizeau et Lisée. Je dis dans le livre, Bouchard, Parizeau avait été choisi pour perdre.
C'est-à-dire?
Et Lisée a été choisi pour être battu.
Oui, c'est très présent dans le livre, ça. Donc, c'est quoi? Faites-moi préciser le contenu de cette distinction. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bien, choisi pour perdre veut dire tout simplement, on sait qu'avec eux autres, ça marchera pas. Qu'on inconsciemment, par une sorte de tâtonnement inconscient, je peux pas vous en faire la démonstration, ne me demandez pas des statistiques. C'est une intuition interprétative. c'est un effort pour faire, comme dit Lacan, pour essayer de faire des vagues avec une interprétation pour bouger un peu l'espèce de marais de la question nationale telle qu'on la trouve aujourd'hui. C'est essentiellement dans lesquels on se reconnaît. C'est pour ça que celui...
Mais quelle est la distinction entre choisi pour perdre ou pour être battu? Qu'est-ce que vous allez dire par là?
Perdre, ça veut dire qu'on est sûr qu'avec eux, ça marchera pas. Parizeau, Bouchard, d'ailleurs, ils se sont passés le pouvoir à dernière minute. Ils savaient plus à quel sein se vouer à un moment donné. Mais pour être battu, ça, c'est autre chose. Parce que pour être battu, là, on va s'apercevoir, ça fait 40 ans que la chansonnette péquiste tourne, là. Lisée, on l'a choisi, on a écarté Cloutier, on a écarté les plus jeunes parce qu'on voulait pas leur faire porter l'odieux de l'échec des générations. Lisée, pour moi, va se présenter, puis c'est pour ça que je fais référence aux thèses de René Girard, Lisée va se présenter sur la scène en étant celui qu'on va battre, dans lequel, en fait, finalement, le PQ va faire reposer l'ensemble des erreurs stratégiques depuis 40 ans sur lui, en 2018. À partir de là, ils vont dire... le PQ va dire « On a tout essayé. » Et là, j'ai même écrit dans le livre la lettre de démission de Lisée telle que je l'imagine. Là. Évidemment, c'est satirique, puis il n'y a pas une once de méchanceté là-dedans. Mais on a tellement été habitués au genre démissionnaire péquiste qu'on peut même prévoir la lettre dans laquelle Lisée va tirer sa révérence au nom d'une génération qui aura tout essayé. Puis moi, c'est pour ça que 2018 m'intéresse, mais c'est l'après-PQ qui m'intéresse.
Alors, la formule est forte, et juste cette histoire de bien comprendre. Donc, pour vous, en fait, Lisée a été choisie inconsciemment par les péquistes pour en finir avec leur propre aventure.
C'est-à-dire que c'est une sorte de bûcher funéraire, c'est un bûcher des vanités. Il est déjà, on se reconnaît pas véritablement en lui. Bon, ses résultats récents sont trompeurs parce que en fait, au début, on le voyait pas dans la course à l'élection du PQ en remplacement de PKP. On le voyait pas comme au début, il partait très loin. Et donc lui, il va cristalliser en quelque sorte. C'est lui sur lequel va reposer, à mon sens, une lecture comme une autre. J'espère me tromper d'une certaine manière, parce que j'ai quand même de la sympathie pour les hommes, mais j'ai l'impression que c'est lui qui est dans le collimateur sacrificiel du PQ, c'est-à-dire c'est lui dans qui on se reconnaît pas vraiment à cause de sa qualité d'élocution, à cause de toutes sortes de raisons de cette nature-là, et qui va, puis en plus le fait qu'il est là depuis si longtemps, c'est-à-dire qu'il est dans l'ombre, en fait sa grande malchance, c'est que quand il a été élu, il passait derrière Trump, derrière l'élection de Trump, et là il était derrière Irma. Vous allez me dire, c'est un enchaînement de catastrophes naturelles, là, mais ça va se terminer comme ça. Il va prendre sur lui là l'ensemble des déconvenus péquistes. C'est l'élément. Il va être le bouc émissaire en fait.
Alors Christian Saint-Germain, nous allons à la pause pour quelques instants et nous revenons ensuite à la vie des idées.
Vous écoutez Radio VM.
Alors, chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées avec Christian Saint-Germain, qui nous parlons de son livre « Naître colonisé en Amérique ». Nous nous sommes quittés au moment où Christian Saint-Germain, fidèle à ses habitudes, jouait avec un marteau sur le Parti québécois et détruisait ce qui restait à détruire de ce parti. Pour reprendre sa formule, il faut tuer le PQ qui est déjà mort.
Non, il y a des morts qu'il faut que l'on tue.
Alors oui, alors effectivement, je vous avais mal cité, mais je crois que l'idée était là. Alors, cela dit, j'aimerais vous ramener là, vraiment, on se détache un instant, bien que je devine que vous y reviendrez, au sort du Parti québécois, pour chercher à comprendre ce que vous entendez par cette idée d'être colonisé. C'est-à-dire, il y a une partie de la sociologie québécoise, des années, des écrivains aussi, des poètes, qui dans les années 50, on peut penser à l'École de Montréal avec Maurice Séguin, on peut penser à Gaston Miron, on peut penser à François Aquin aussi par ailleurs, mais à Hubert Aquin, on peut penser à plusieurs figures qui ont cherché à Vallière, qui ont cherché à comprendre le Québec à la lumière d'une forme de pensée de la du colonisé, d'un portrait du colonisé, pour reprendre la formule de l'autre. Alors, la question que je vous pose, c'est qu'entendez-vous par un peuple colonisé, et de quelle manière le peuple québécois l'est-il et l'est-il encore?
Ben, dans le fond, parce qu'il est conquis, il est une monnaie d'échange à partir de l'acte de Québec. C'est une cession, il est cédé comme une monnaie vivante à la puissance ennemie, à ceux qui parlent pas sa langue, à ceux qui vont installer un autre système politique que le sien. Il est d'abord colonisé parce qu'il est cédé. Et cette cession-là, dans l'acte de Québec, fait en sorte qu'à partir de ce moment-là, un événement qui semble tout à fait lointain et inconnu, dont la portée, évidemment, n'apparaît jamais à la conscience de l'homme ordinaire, surtout à travers les générations d'étudiantes polyvalentes qui ne connaissent pas l'histoire. C'est-à-dire être colonisé, c'est oublier en fait d'où on vient, des 5-6 provinces de France dont on est issu principalement. C'est oublier d'abord cela, qu'on est un morceau de France en Amérique, qui aurait peut-être pu devenir, n'eût été de les saignées des années 30, et qui aurait peut-être pu devenir ce que les États-Unis sont devenus pour l'Angleterre. Par rapport à nous, on aurait pu devenir cela par rapport à la France, qui sait si on n'avait pas justement subi l'effet de la conquête. Donc, l'élément historique, il y a un élément d'oubli actif dans la condition de colonisé, d'oubli entretenu évidemment par la fragilité du système d'éducation, sa pauvreté, et par le fait que c'est très désagréable de se savoir colonisé, de se savoir vaincu, de se savoir un peuple battu, défait. Hein? C'est très désagréable de voir, par exemple, aujourd'hui des ministres fédéraux parler en notre nom pour savoir qui doit entrer au Québec, qui peut rester, qui nous disent « vous ne pouvez pas parler votre langue complètement, vous devez faire attention à ceci ou à cela ». C'était absolument désagréable quand on est un adulte, de voir d'autres adultes parler à notre place quant à notre condition et à notre destin. Et ça, ça a une portée absolument, pour moi, symbolique, pas juste concrète, mais bien sûr, qui a un effet dans le réel qui est dévastateur pour moi.
Et comment fonctionne au Québec ce refoulement? Parce que vous dites qu'il y a la condition coloniale, très bien. Vous dites aussi qu'ici, il y a un travail immense pour que n'advienne pas à la conscience cette réalité d'être colonisé. Alors, comment fonctionne ce refoulement colonial au Québec et comment fonctionne-t-il surtout aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, à la rigueur, on pourrait dire que dans les années 50, dans les années 30, dans les années 20, il y avait une conscience quand même partout présente de la situation coloniale des Québécois d'une manière ou de l'autre. C'est présent chez le chanoine Groux, c'est présent, mais pas seulement chez lui, c'est présent dans le sentiment qu'ont les Québécois d'être aliénés dans leur propre pays, c'est présent dans les chansons de Félix Leclerc, c'est présent de différentes manières, mais aujourd'hui, ne le voit plus d'aucune manière. Comment ça fonctionne aujourd'hui, ce refoulement, selon vous?
Mais c'est là l'effet d'un parti comme le Parti québécois, c'est là l'effet délétère d'un parti comme ça, parce que lui, dans le fond, il s'engage dans des progrès tout à fait admirables, mais en fait, s'engageant dans ses progrès, plutôt que de faire l'essentiel de sa tâche historique, c'est-à-dire de faire l'indépendance, essayant à chaque fois ce qu'on appelle des dérives opportunistes, en disant « ça nous prend le pouvoir, il faut le pouvoir, puis si on n'a pas le pouvoir, pouvoir, on peut rien faire. C'est vrai, de certains points de vue.
Il y a du vrai là-dedans.
Non, il y a du vrai là-dedans.
Tu peux pas faire l'indépendance dans l'opposition.
Oui, mais tu peux pas la faire non plus si t'es en fait un parti provincial qui fait semblant que en 2022, on va sortir du garde-robe, puis on va faire une sorte de coming out final, là, dans laquelle on va s'assumer, mais entre-temps, on peut pas en parler parce que c'est comme ouvrir son imperméable dans un parc, c'est une idée bien dangereuse. On va se faire... Et donc, si c'est être colonisé en diable, c'est-à-dire ça, c'est véritablement être colonisé. C'est pour ça que sur la couverture de mon livre, le diable y apparaît. En fait, la plus grande ruse du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Donc, la plus grande ruse d'être colonisé, c'est de penser qu'on n'est pas colonisé. En fait, c'est le premier jalon d'une prise de conscience, c'est de savoir que c'est une maladie invisible, imperceptible, que le système d'éducation ne va pas rehausser par des cours d'histoire particulièrement réussis, et à partir duquel on va se dire qui on est, nous autres Québécois. C'est la chanson de Georges Dor, je suis Québécois, ça me donne quoi? En fait, déjà dans les années 70, on commence à comprendre cela, on se dit, quelle est mon identité? Ben en fait, puisque je suis pas capable de remonter à cette source, à la source française de mon identité. D'ailleurs, je suis très mal pris parce que la source française, c'est la source qui m'a abandonné aux forces ennemies qui ont été les puissances anglo-saxonnes. Donc, c'est toute la difficulté. C'est ça, j'allais dire, le dilemme d'être colonisé, c'est de ne pas le savoir.
Alors, quels sont, vous nous dites, il y a des effets, évidemment, dans la conscience collective, mais vous parlez des effets concrets de cette conscience, de cette situation de colonisée. Je me permets de vous poser la question, c'est-à-dire comment voyez-vous, à quoi reconnaissez-vous aujourd'hui dans le Québec contemporain cette conscience coloniale d'une manière ou de l'autre?
Soyons très simples, c'est comme le nez au milieu du visage. En fait, un parti indépendantiste ou soi-disant souverainiste, ou je sais pas comment il s'appelle maintenant, là, il est peut-être crypto-végétarien, un parti indépendantiste nous dit « je ne parlerai de la question qu'en 2022 ». Ou la question, même Landry a parlé d'un troisième mandat. Ça me prend absolument le pouvoir pour pouvoir en parler. Ça me prend absolument le pouvoir pour pouvoir réfléchir à cette condition. C'est-à-dire, le PQ, par rapport à la question nationale, c'est l'histoire d'une longue paresse intellectuelle dans laquelle on n'a pas renouvelé véritablement le discours nationaliste et devant lequel on est... Le premier symptôme colonial, c'est que le premier... parti qui est censé représenter les aspirations profondes, nous dit « moi, je peux pas en parler tant que je n'ai pas le pouvoir, puis je peux pas en parler tout de suite, puis faut pas avoir faim tout de suite, parce que moi, je me suis mis, je vais essayer de faire lever le dernier soufflé, là, dans sa forme texturée. Je vais me mettre à... En fait, c'est le festin de Babette, là, que Lisée nous propose là, pour 2022. Donc, juste cette proposition-là, c'est une proposition insensée qui ne tient que parce que, par exemple, les médias, on parlait au début de l'entretien des médias, parce que les médias donnent une sorte de vraisemblance quand Anne-Marie Dussault reçoit Lisée, elle fait comme si, dans le fond, ça avait beaucoup de sens, ça, 2022. On dit que 6 mois en politique, c'est une éternité. 6 ans, qu'est-ce que c'est? 5 ans, ça n'a pas de sens. On voit bien que c'est une proposition insensée qui ne marcherait qu'à l'intérieur d'une tribu qui prendrait des substances hallucinogènes. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas renier une option fondamentale aussi noble que l'indépendance d'un peuple en disant « je peux pas vous en parler tout de suite » ou « je vais attendre que le beau temps s'organise » ou « je vais attendre ». En fait, ma seule chance, c'est que les libéraux en face soient pris dans des scandales, des méga scandales de corruption et qu'ils échappent le ballon et que c'est pas dans ce cadre-là que la question nationale doit être posée. Ça, c'est le cadre provincialiste. Cadre dans lequel excelle Lisée, qui connaît depuis 20 ans, il est là depuis... c'est un pilier de taverne, si j'ose dire.
Je laisse de côté cette dernière formule et
la taverne Fleur de Lys, enfin, là,
et je vous ramène sur la question encore une fois des effets de la conscience coloniale. Est-ce qu'effectivement de temps en temps les Québécois je reformule en fait, est-ce que de temps en temps les Québécois prennent conscience, ne serait-ce que partiellement, ne serait-ce que le temps d'une frustration ou d'une colère, de leur situation d'aliénation, selon vous, ou est-ce que cette conscience d'être colonisé, en fait, est-ce que cette réalité d'être colonisé remonte à la conscience de temps en temps, ne serait-ce qu'à la manière de secousses, de blessures?
De moins en moins, parce que pour une chose très simple, parce que dans le fond, le PQ a réussi, en quelque sorte, à travers sa stérilisation des idées nationalistes, c'est-à-dire que dans le fond, il a le monopole de la question, il est comme une sorte de CLSC ou de SAQ de la question nationale. national. Donc, il a le monopole exclusif comme Hydro-Québec de tout ce qui se fait. Donc, il a réussi à paralyser par sa vision provincialiste l'ensemble des énergies vives. Hein. Il a pu les monopoliser comme un monopole d'État de type Révolution tranquille. Mais surtout parce que, finalement, une des chevilles ouvrières de la prise de conscience de l'État de colonisé, c'est à travers les artistes. Or, un chansonnier, un poète nationaliste, là, il s'en trouve plus beaucoup au Québec. Et donc, le PQ a réussi à déconnecter l'affect esthétique, c'est-à-dire l'affect poétique, pour ramener ça à des questions de gérance, de gouvernance, d'économie, de chèques qui arrivent plus vite, de prise en charge plus grande, plutôt que de ramener ça à des questions de fierté, à des questions purement, dans le fond, être libre, c'est une question qui n'a rien à voir avec des questions d'ordre bêtement économique. De toute façon, l'économie, on la contrôle pas à l'époque où on se trouve, de sorte que c'est juste une question de fierté. C'est juste de dire, on ne prend pas d'ordre d'un autre peuple qui n'est pas le nôtre et avec lequel on se distingue parce que nous ne parlons pas sa langue.
D'ailleurs, vous avez un contre-modèle au cas québécois dans votre ouvrage. C'est le cas d'Haïti, vers lequel vous vous tournez. C'est-à-dire, vous nous dites que finalement, on connaît la formule, je crois, c'est Daniel Laferrière qui dit les Québécois ont tout sauf l'indépendance, alors que les Haïtiens ont rien sauf l'indépendance. Alors, de quelle manière le cas haïtien, selon vous, éclaire d'une manière ou de l'autre la condition québécoise?
Parce que moi, je suis très admiratif de la victoire d'Haïti. Pour moi, je reprends en cela les travaux d'une philosophe américaine qui s'appelle Susan Morse, qui a écrit un livre, un petit livre extraordinairement, comme on dit savamment, roboratif, qui s'appelle Hegel et Haïti. Un livre magnifique, publié chez Léo Scheer, aux éditions Léo Scheer, dans lequel elle montre essentiellement que parmi les grands événements de l'histoire, la libération des esclaves haïtiens de Saint-Domingue a été un événement, évidemment, que Hegel ne rapporte pas expressément, mais qui lui sert dans la dialectique du maître et de l'esclave, essentiellement. Et donc, pour moi, Haïti est admirable parce que sa contribution à l'histoire, c'est pas une contribution purement philosophique comme le cogito cartésien ou la déclaration sur la mort de Dieu de Nietzsche, parce que concrètement, Haïti a montré que des esclaves pouvaient être libres, pouvaient, avec Poussin l'ouverture, avec des salines, avec l'ensemble. On a une dette par rapport à eux extraordinaire, et donc un devoir d'hospitalité d'une certaine manière qu'on doit maintenir, parce que quand les Haïtiens viennent chez nous, il faut se rappeler que nous-mêmes, nous avons été exilés jadis. Nous-mêmes, 40 000 personnes se sont tournées vers les États-Unis à un moment donné, vers Woonsocket, par exemple, dans le Rhode Island ou dans New Hampshire, je ne sais plus trop, enfin. Et donc, pour moi, l'événement haïtien est un événement dans l'histoire absolument remarquable, admirable. Mais évidemment, on peut pas juger, vous allez me dire, la condition actuelle d'Haïti est abominable, c'est vrai, la condition présente, mais leur contribution à l'histoire est inestimable pour moi.
Alors, il y a dans votre livre, et pas seulement dans ce livre-là, si je peux me permettre, dans votre série, on devine qu'il y en aura peut-être
une
quatrième.
Trilogie, oui.
Oui, oui, mais j'allais dire de la trilogie au début, mais puisqu'on peut s'attendre à ce qu'il y en ait un quatrième, parce que vous avez l'impression de ne pas encore tout dit sur cette question, je vais me garder une réserve. Il y a quelque chose qui est très présent, c'est cette idée qu'il y aurait quelque chose comme un destin exceptionnel du peuple québécois en Amérique.
Une vocation surnaturelle.
Une vocation. Alors, j'essayais de laïciser votre propos. Il y a une vocation surnaturelle du peuple québécois, puisque vous assumez le terme. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose, comme vous avez utilisé tantôt la promesse des ancêtres. Il y a, autrement dit, vous avez utilisé la formule du noyau mystique. Donc, pour vous, manifestement, il y a quelque chose comme un noyau mystique, un noyau exceptionnel, un noyau existentiel au cœur de la condition québécoise, qui porte la promesse d'un État indépendant, d'un État français en Amérique. Mais j'aimerais vous amener à développer un peu plus sur ce noyau que vous identifiez sans jamais par ailleurs trop vous y plonger. Qu'est-ce qu'il y a dans cette promesse? Qu'est-ce qu'il y a dans cette vocation surnaturelle dont vous nous parlez? De quoi nous parlez-vous exactement, Christian Saint-Germain? Parce que je précise que c'est sur ça que reposent toutes vos espérances. Vous avez beau vous liquider le PQ, le Bloc, tous les leaders souverainistes, le nationalisme depuis 50 ans, et pourtant vous accrochez votre espérance à cette idée d'une une vocation surnaturelle du peuple québécois en Amérique. Vous conviendrez que des gens un peu moins portés vers ce type de foi ou de spéculation pourraient vous dire vous accrocher à bien peu de choses après avoir tout liquidé.
Bien peu de choses. C'est quand même la Fondation de Montréal. Ça n'est pas fait par des agents d'immeubles. La Fondation de Montréal, c'est quelque chose de grandiose. En fait, il faut se raccrocher à la figure d'un grand autre, c'est-à-dire une folie grandiose qui dépasse l'entendement rationnel. C'est-à-dire quand on traverse de la France, des 5-6 provinces de France, ou on traverse l'Atlantique au péril de sa vie pour venir évangéliser les Indiens. On peut bien nous raconter des histoires sur des gens qui se sont enrichis avec les fourrures. C'est sans doute tout à fait exact, là, le débat porte pas là-dessus. Mais quand on obéit à un ordre de marche de cette nature-là, il est surnaturel, pas parce que on peut pas, c'est pas parce que j'aime pas la laïcité, j'aime par ailleurs la laïcité, le principe, il est surnaturel parce qu'il obéit à cette époque-là et que c'est bien plus fort qu'une idéologie. Des gens viennent planter des croix, laver des Indiens, les soigner, essayer de les comprendre, parler leur langue. C'est quand même quelque chose de grandiose. Et donc, c'est à partir de là. C'est surtout pas à partir de petites récriminations de type syndical qu'on peut construire un pays. C'est à travers quelque chose de plus grand que nous, qui nous a précédés et auquel on voit des traces encore dans le paysage urbain, tout simplement. C'est essentiellement ça. C'est pas, j'allais dire, je ne suis pas une grenouille de bénitier. Je suis juste tout simplement sensible à la force qui a amené la fondation de Montréal et de Québec. Là. Je suis juste émerveillé devant ça, connaissant un peu l'histoire par ailleurs, mais en la connaissant suffisamment pour savoir qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous actuellement, de bien plus courageux et qui devrait nous inspirer. Mais nous inspirer non pas à travers l'argument rationnel de ça va être mieux avec ceci ou avec cela, ou le prix du pilon de poulet va diminuer, mais à travers l'idée que nous sommes appelés à quelque chose de plus grand encore que ce que nous sommes actuellement, et c'est ce saut qualitatif que qu'un chef nationaliste doit embrasser, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ordre actuel, qui doit réinventer, il s'agit pas d'attendre le peuple, il s'agit pour un leader galvanisant de l'amener. Pas de l'attendre en disant on épouse la démarche, oui, je veux bien, là, mais la lumière du leadership se fait par l'inspiration. Hein? On a davantage besoin, j'allais dire, d'adeptes bouleversés que d'adeptes convaincus, pour reprendre une formule d'un littéraire.
Mais je vous reviens, donc vocation surnaturelle du peuple québécois en Amérique, noyau mystique et ainsi de suite. Donc ça fait référence pour vous au souffle missionnaire, au souffle évangélique qui est lié intimement à la Nouvelle-France. On conviendra qu'aujourd'hui, les Québécois sont non seulement insensibles ou étrangers à ce
insensibles, je ne dirais pas. Étrangers, oui, par la force, j'allais dire par la faiblesse de l'enseignement public, bien sûr, par la massivité. Scolaire,
mais au-delà de ça, on pourrait dire que les arguments relevant de la vocation surnaturelle du peuple québécois aujourd'hui en Amérique, on voit bien mal qui est prêt à entendre quelque chose comme ça. Le discours nationaliste peut certainement avoir un souffle existentiel, romantique, le fait de se gouverner soi-même, le fait d'être maître chez soi, mais ce n'est pas vers ça que vous vous tournez en dernière instance. Vous vous tournez vers quelque chose de plus profond, de plus vertical, de plus mystique. Mais cette part-là, qui y a accès?
C'est-à-dire que personne n'y a accès, personne. Moi, je fais pas de channeling là. Je me mets pas en contact avec les mystiques d'une autre époque. Je dis simplement que cela est utilisé tout simplement comme un point de référence qui nous montre à quel point la pauvreté d'un discours de type provincialiste, de type gestion des affaires, est nulle autre et ne nous mènera nulle part. C'est-à-dire, si vous prenez la question nationale depuis l'horizon économique, vous n'arriverez jamais à convaincre qui que ce soit. Vous allez pouvoir faire sortir la flibuste des grands organismes subventionnaires comme Bombardier qui vont venir dire on crée des emplois, puis si le Québec se sépare, il va arriver ici, il va pleuvoir des sauterelles, ou vous allez perdre votre fonds de pension alors que vous n'en avez pas de toute façon. Mais on s'engage pas dans des discours de type économique. On peut parler d'économie, on peut réfuter des hérésies économiques, mais on n'appuie pas la question nationale sur des questions seulement économique. Non, sinon, on perd complètement. Nos adversaires sont armés, ils ont les médias, ils font une bouchée de nous.
Alors, sur ça, vous touchez à quelque chose de très fort, c'est-à-dire effectivement les limites d'un souverainisme qui ne serait que comptable, les limites d'un discours qui se veut gestionnaire et pragmatique, comptable, alors qu'il est finalement simplement ennuyant. Vous identifiez d'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais on en avait déjà parlé dans une autre émission, la dégénérescence thérapeutique, bureaucratique du modèle social hérité de la Révolution tranquille. Donc, comme si pour vous, d'une certaine manière, le peuple québécois était étouffé par un modèle qui apparemment devait l'émanciper, alors qu'aujourd'hui, il le dévitalise, il le saigne de différentes manières.
Parce qu'on ne sait pas combien va nous coûter, par exemple, la prochaine négociation avec les médecins spécialistes et les médecins omnipraticiens. On ne sait pas de quelle ampleur va être l'œil au beurre noir qu'on va recevoir de cette négociation-là, qui sera tenue par les grands médias dont on parlait en début d'entretien, assez secret. Hein? En fait, toutes les vraies affaires au Québec... En fait, si je voulais essayer d'être un peu plus clair, je dirais ceci. Le Québec, c'est la Sûreté du Québec, l'Hydro-Québec, les médecins spécialistes, les médecins omnipraticiens, qui sont placés face à des médias qui répètent à peu près les mêmes choses sans questionner ses grandes forces, c'est-à-dire trois émissions, Denis Lévesque, Anne-Marie Dussault et Guillaume Lepage. Tout le modèle, toute la stagnation québécoise est dans cet étau-là. Pour les questions importantes, on s'emballe avec le fait que, je sais pas, les officiers de la Sûreté du Québec n'auront pas deux emplois, comme si c'était pas une folie déjà depuis longtemps que des officiers aient deux emplois. Mais ça, donc, ces éléments-là, c'est ça qui tient la conscience québécoise colonisée actuellement.
Mais je vous poursuis. Donc, pour vous, il y a quelque chose de plus profond, de plus vrai, qui gît au Québec et qui pourrait ressurgir en faisant éclater tout ça.
Mais c'est-à-dire qui pourrait réapparaître si l'on risquait,
si on en appelait à ça,
si on acceptait pour un temps le fait de ne pas avoir de référence à un nationalisme patenté comme celui du PQ, si on acceptait de marcher un peu dans le désert plutôt que de faire gérer à distance la question nationale par du monde qui s'y connaisse en question nationale, là, puis ce fameux coureur qui court depuis 40 ans sans jamais rien gagner d'essentiel et qui instaure des fausses sécurités, si on avait le courage de les liquider, de marcher au désert par rapport à, parce que de toute façon, il ne livrera pas, de toute évidence. S'il livre, ça va être sous le mode provincial et c'est sous le mode de la conjoncture mauvaise ou j'ai des enfants, il faut que je m'en occupe, ou ça va tourner comme ça, là. Ça va tourner en queue de poisson dans le grand cirque ordinaire qu'a été le PQ. Et donc, ça va tourner dans ça. Et donc, il faut prendre le risque. Pas oser comme le PQ, là, mais il faut prendre le risque essentiellement de réimaginer l'indépendance et le nationalisme en dehors du schéma provincialiste péquiste.
Donc pour vous, d'une certaine manière, si tout en venait à s'effondrer politiquement, j'entends du mouvement souverainiste...
Ça serait plus grand-chose, en fait, tout s'effondrer.
Ce serait l'occasion d'une renaissance pour vous, c'est-à-dire c'est la possibilité d'une renaissance.
C'est la seule chance qui nous reste, en fait.
La mort du PQ est la seule chance qui nous reste?
Oui, parce que c'est l'ennemi principal de l'idée d'indépendance, en fait, c'est celui qui l'a dénaturé, qui l'a corrompu à travers, l'obsession référendaire de Claude Morin. C'est celui qui est, dans le fond, qui est traversé par les idées fines de Claude Morin, dont on connaît l'emploi du temps maintenant et les hobbies.
Mais je vous ramène sur cette question de l'argument économique qui est très important. Vous nous dites, on ne fait pas l'indépendance que pour des raisons économiques. Vous identifiez très justement, sur ce point de vue, les dérives d'une espèce de pragmatisme comptable à courte vue, où on a l'impression d'être finalement plus dans les vraies affaires.
Je pense à la nationalisation de l'amiante, je pense à des erreurs de cette nature-là. C'est-à-dire que ça peut pas nous mener, ça. Ça, on doit en tenir compte, bien évidemment. Mais ça ne peut pas être le noyau du discours. On veut pas être libre parce qu'on veut être plus wealthy, si vous me permettez l'expression. On veut être libre parce que c'est dans notre nature d'être libre, mais... et que ça s'impose à nous comme n'importe quel peuple normal, même si on le fait sur le tard, même si la Papouasie-Nouvelle-Guinée a fait son indépendance en 1976, ça s'impose à nous parce qu'il est urgent pour nos enfants, pour ceux que nous souhaitons faire et souhaitons avoir, et ceux que nous avons déjà, d'en arriver là.
Mais alors, vous nous dites que ce discours ne suffit pas, il faut une charge romantique, une charge je sais pas, le mot lyrique est pas le bon, mais une charge affective qui touche les affects profonds, les passions politiques.
Mais la fierté, c'est un affect profond comme la honte.
Je suis pas occupé à dire le contraire. Mais ce que je dis, c'est que on est encore dans la discussion sur la vocation surnaturelle du peuple québécois. N'y a-t-il pas moyen, justement, de mobiliser ces affects, ces passions, cette fierté, ces espérances, sans pour autant, sentir le besoin de connecter ça de manière obligatoire, finalement, à ce discours mystique qui est assez étranger, disons-le, non seulement à la conscience québécoise mais à la conscience contemporaine en général.
Je n'en fais pas un passage obligé. Je dis tout simplement que c'est un point de comparaison.
Ça nous révèle notre propre réalité. C'est-à-dire, on regarde la grandeur de la fondation.
Ça nous révèle notre origine.
Alors, il nous reste à peine 3 minutes. Je vous ramène, parce que je m'en voudrais de ne pas vous amener dans la vie politique, dans ce cas-là, de plus prosaïque. Vous dites ce qui vous intéresse, c'est 2018. Alors, imaginons que vos rêves les plus fous se réalisent et que le PQ s'effondre en 2018.
C'est pas un grand rêve, là. Je pense qu'avec 22%, on est sur une bonne voie, sur une lancée.
Vos espérances se traduisent concrètement, le PQ s'effondre, et Christian Saint-Germain dit c'est notre plus grande chance, donc vous dites d'une manière ou de l'autre, hourra, enfin les vraies affaires commencent. Alors dans cet
Je dis enfin les vraies affaires vont peut-être commencer.
D'accord.
Et quelles sont... Je suis pas Nostradamus. Bon, j'ai bien sûr prédit la démission de PKP. J'ai écrit la lettre de démission de l'ISEE, évidemment un peu comme un astronome qui prévoit la position d'une planète sans avoir un télescope. Là, on par les calculs, on se dit ordinairement, on regarde Drainville, on regarde l'ISEE, on voit le genre littéraire.
Il nous reste peu de temps, alors je vous ramène au-delà de votre prétention nostradamesque.
Oui.
Quelque chose peut commencer peut-être à arriver. À quoi ressemble pour vous, dans les années qui suivent, une renaissance du nationalisme québécois? Oui, vous devez répondre à cette question, bien que vous préférez ne pas y répondre.
Je souhaite y répondre. J'espère vous convaincre, vous satisfaire, ce qui semble assez difficile depuis le début de cet entretien. Il faut faire les preuves. Moi, je suis contre les soi-disant pragmatiques qui disent que ça nous prend le pouvoir absolument pour faire quelque chose. Moi, je pense que c'est le meilleur moyen pour avoir un très bon gouvernement provincial, mais sans plus. Un peu comme Régis Chartrand disait un jour, le PQ a fait à peu près tout sauf l'essentiel. C'est-à-dire, la loi sur les terrains agricoles, on peut faire le no-fault, les deux noms, enfin, toutes sortes de finasseries intéressantes, grandioses, qu'on aime à rappeler dans les fêtes de famille péquistes ou dans les cocktails dînatoires nationalistes, n'est-ce pas, Mathieu? Et donc, cette condition-là, et elle doit être dépassée essentiellement, et elle le peut à la condition que le PQ débarrasse le paysage. Mais c'est très difficile parce qu'au Québec, les affaires qui sont incrustées depuis les années 70 sont incrustées comme, je sais pas, les CLSC, la SRQ.
Il nous reste une minute, la suite néanmoins, plus concrètement, c'est quoi le visage de la suite?
Le visage de la suite, c'est d'essayer de voir quelque chose de neuf. C'est-à-dire, en dehors du vieil argumentaire provincial du PQ, c'est-à-dire de voir apparaître un autre parti nationaliste qui aura rompu avec les amarres péquistes.
Alors, cher Christian Saint-Germain, c'était un plaisir de vous recevoir à La Vie des idées. Chers amis, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vie des idées. C'était un plaisir. Restez à l'antenne de Radio Ville-Marie.